Corsaire de Philippe Vasset et Pierre Gatineau. Prise de son Fabien Gosset. Réalisation Rafik Zénine.
Au XVIIe siècle, les corsaires couraient les mers pour leur compte et pillaient des navires pour leur roi. Quatre siècles plus tard, leurs lointains héritiers sont partout. Sur les champs de bataille où ils sont aux avant-postes des combats, dans les airs où ils assurent la surveillance des côtes, dans l'espace où ils espionnent et même dans le cyberespace où ils piratent. La concession des fonctions les plus régaliennes de l'État à des opérateurs privés sera la tendance lourde du siècle qui vient. Et sans attendre, notre série Les Nouveaux Corsaires vous propose d'aller à la rencontre de tous les entrepreneurs en souveraineté auxquels les États sous-traitent d'ores et déjà leurs missions les plus sensibles.
Aujourd'hui, la diplomatie privée avec Jonathan Powell, le mercenaire de la paix. Le point commun à tous ces nouveaux corsaires, c'est qu'ils n'aiment pas la lumière et que leur mission, toujours sensible, parfois polémique, s'accommode plus volontiers de l'ombre. Le cas de Jonathan Powell est à cet égard particulier. Car avant d'entrer il y a 10 ans dans la confrérie des nouveaux corsaires, Powell a été au Royaume-Uni l'un des barons les plus en vue du New Labour, cette vague travailliste qui a porté Tony Blair au pouvoir.
Directeur de cabinet de Tony Blair pendant 10 ans, Powell a été, avec Alastair Campbell, l'une des principales éminences grises du Premier ministre britannique. Il a été sur toutes les photos de tous les combats. Puis lorsque Blair a quitté le pouvoir en 2007, Powell a brusquement disparu. Il fallait avoir l'œil particulièrement exercé pour le remarquer en 2016, assis au premier rang de la salle de l'Institut Nobel à Oslo, lors de la remise du prix Nobel de la paix au président colombien Juan Manuel Santos.
On l'a également vu sur les rares photos existantes de l'équipe qui, pendant 10 ans, a négocié le désarmement de l'ETA au Pays Basque. On l'a aussi aperçu en Birmanie, en Indonésie, au Mozambique ou encore en Libye.
Jonathan Powell est devenu ces 7 dernières années l'un des très rares prestataires privés au monde à exercer la profession de médiateur de conflits armés. Des États le mandatent pour négocier avec des guérillas, des séparatistes, voire des terroristes.
Une telle activité n'incite pas, on l'imagine, à se livrer à 2 journalistes français. Nos premières approches ont été diversement appréciées. Mais 2 éléments vont jouer en notre faveur. D'abord le fait que Powell ait commencé sa carrière comme journaliste de radio. Juste après Oxford, il a animé à 21 ans une émission sur la BBC.
Notre autre atout, c'est que la radio ne révèle ni les lieux, ni les visages, et qu'elle autorise les silences. Une après-midi de janvier, nous avons donc sonné à la porte d'Intermediate, la petite organisation fondée et dirigée par Powell, et installé à l'ombre des tours de Westminster à Londres. Nous avons pénétré dans une maison désuète, meublée comme un cercle de bridge de quartier. L'atmosphère oscille entre Agatha Christie et Downton Abbey. Difficile d'imaginer que c'est là que Powell a préparé ses missions sur les lignes de front du Mozambique et de Colombie, et reçu des insurgés de tous les pays et de tous les bords. Nous installons notre micro dans une petite salle de réception. Sur les étagères, on remarque une sorte de calumet, cadeau des indépendantistes musulmans d'Aceh, en Indonésie, et un éléphant en porcelaine, don du Conseil national de sécurité de Thaïlande. Autour d'un thé, Powell retrace son basculement dans la diplomatie privée.
J'ai été un diplomate pendant 16 ans. Et de manière assez inhabituelle pour un diplomate, j'ai consacré presque tout mon temps à mener des négociations, notamment parce que nous étions à la fin de la période de décolonisation. J'ai ainsi participé, au début des années 80, aux négociations avec la Chine sur le statut de Hong Kong, durant lesquelles nous avons accepté de rendre Hong Kong à la Chine. Cette expérience a été fascinante. C'était un aperçu décisif du fonctionnement interne d'une négociation. La position du Royaume-Uni était très faible. Nous n'avions presque rien à offrir. Notre bail sur la concession avait expiré. Nous n'avions aucune carte dans notre jeu. À la fin des années 80, j'ai participé aux négociations sur la réunification allemande. Et ensuite, je suis parti à Washington, où j'ai acquis une réputation de flair politique totalement usurpée. Au sein de l'ambassade, mon travail consistait à suivre les candidats démocrates à la présidentielle de 1992. J'ai choisi de suivre Bill Clinton, parce qu'il avait passé une année dans mon collège à l'université d'Oxford, et pas du tout parce que j'avais du flair. J'ai donc passé une année à suivre Bill Clinton et à faire des notes disant qu'il allait gagner. C'est comme cela que j'ai rencontré Tony Blair. Il est venu aux États-Unis, il voulait rencontrer Clinton et ses conseillers, les nouveaux démocrates. J'ai passé une semaine avec lui à Washington, à le présenter aux dirigeants démocrates. Et c'est comme cela que j'ai fait sa connaissance. Quand il a pris la tête du Parti travailliste, il m'a demandé de le rejoindre pour devenir son directeur de cabinet. J'ai donc quitté la diplomatie pour découvrir que le Parti travailliste n'avait quasiment pas de moyens. Il a fallu trouver les gens, les fonds et mettre tout en branle. On a passé 2-3 ans dans l'opposition et en 1997, quand Tony Blair a été élu Premier ministre, il m'a demandé d'être son directeur de cabinet. Donc pendant 10 ans, de 1997 à 2007, j'ai été directeur de cabinet de Tony Blair.
Un poste très exposé qui fait de Powell l'une des figures clés de l'establishment du New Labour, qui va diriger le Royaume-Uni pendant 10 ans. Mais en plus de ses journées de haut fonctionnaire, Powell va développer une activité parallèle, une vie secrète qui sera la matrice de son activité de mercenaire de la paix.
Durant la même période, presque par accident, je me suis également retrouvé négociateur en chef du gouvernement britannique en Irlande du Nord. Avant d'être élu Premier ministre, Tony Blair avait décidé que l'Irlande du Nord serait une priorité de son gouvernement. Son prédécesseur, John Major, avait très courageusement initié un processus de paix, mais il n'en a retiré aucun avantage politique et n'a pu le mener à son terme. L'IRA ayant rapidement repris les armes, jugeant que le Sinn Féin était insuffisamment consulté. Quand Tony Blair a été élu, son premier déplacement hors de Londres a été en Irlande du Nord. Il s'est rendu à la foire agricole à Balmoral, au sud de Belfast, et a fait un discours où il a dit qu'il n'espérait pas voir une Irlande unie de son vivant, ce qui a beaucoup rassuré les unionistes. Mais dans le même temps, il a tendu la main vers le Sinn Féin et l'IRA, en leur disant que s'ils renonçaient à la violence, des négociations seraient ouvertes très rapidement et qu'ils y seraient pleinement associés. Que nous ne ferions pas ce qu'avait fait John Major, c'est-à-dire de les marginaliser.
Une
des raisons pour lesquelles j'ai hérité du dossier, c'est que, quand j'étais aux États-Unis, l'une de mes responsabilités était d'aller au Congrès, défendre la position britannique sur l'Irlande du Nord, mais également d'accueillir les politiciens unionistes qui venaient aux États-Unis. Je connaissais donc assez bien le camp unioniste. Au début de l'année 1998, lorsqu'il a fallu associer les unionistes aux négociations de paix dites du Vendredi Saint, ça a été mon rôle de les rassurer et de les amener à la table des négociations. Et j'ai conservé ce rôle durant le mandat de Tony Blair. Je me retrouvais donc régulièrement à traverser la mer d'Irlande pour rencontrer en secret Gerry Adams et Martin McGuinness à Belfast, Derry, Dublin, mais également pour parler aux dirigeants unionistes. Tout cela en essayant de mener à bien mon rôle de directeur de cabinet. Car il ne faut pas oublier qu'il a fallu 9 ans après l'accord du Vendredi Saint pour mettre la paix en œuvre et avoir des institutions qui fonctionnent. Ces négociations ont été longues et difficiles. Elles m'ont considérablement occupé, mobilisé. Mais quand j'ai quitté le gouvernement et que j'ai regardé en arrière, ce que j'étais fier d'avoir accompli, c'était la paix en Irlande du Nord. Et rétrospectivement, je me rends compte que j'ai aimé conduire ces négociations, même si, à l'époque, cela semblait plutôt douloureux et exaspérant. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais vraiment aimé.
Au milieu des années 2000, l'activité de diplomate privé n'existe pas ou si peu. Il y a bien la communauté catholique de Sant'Egidio, établie dans un ancien carmel à Rome, qui a négocié la fin de la guerre au Mozambique. mais aucune organisation privée ne s'était avant lancée dans un secteur qui reste l'apanage exclusif des États et des organisations internationales, à savoir la négociation avec les groupes armés.
J'ai donc quitté le gouvernement et j'ai brièvement tenté d'être banquier. Mais je restais très intéressé par cette activité, la négociation et la résolution de conflits. Et j'avais commencé à travailler avec une petite ONG suisse, le Centre pour le dialogue humanitaire, dirigé par Martin Griffiths. Lui et son organisation s'étaient impliqués au Pays Basque. Ils avaient ouvert un canal de discussion entre le gouvernement espagnol et l'ETA. Mais ces négociations ont connu une passe difficile en 2006. À l'époque, je travaillais encore aux côtés de Tony Blair, et Martin est venu me trouver à Londres et m'a demandé si je pouvais leur donner un coup de main. Et j'ai dit oui, bien sûr. Tony était d'accord. J'ai donc emmené des anciens militants de l'IRA à Genève pour qu'ils rencontrent des gens de l'ETA. Les Basques m'avaient dit, si vos gars sont des collabos, si ce ne sont pas de vrais terroristes, on le saura tout de suite, on quittera la réunion. 3 heures plus tard, ils sont ressortis en disant « C'est bon, c'est les vrais ». Cette initiative a aidé, ça a remis la négociation en selle. Ensuite, j'ai été à Madrid rencontrer Alfredo Rubalcaba, le ministre de l'Intérieur espagnol, qui gérait les pourparlers avec les militants basques. Et j'ai travaillé sur les négociations en cours. De fait, j'ai travaillé sur ce dossier avec le Centre pour le dialogue humanitaire, jusqu'à l'année dernière, quand l'ETA a finalement désarmé et s'est autodissous. Donc même quand j'étais banquier, je gardais un pied dans cette activité de médiation. J'ai aussi écrit un livre sur l'accord du Vendredi Saint.
Jonathan Powell a l'habitude très anglaise de tout présenter comme une suite de hasards, malentendus et quiproquos. Ainsi, la création d'Intermediate, l'un des premiers cabinets au monde à pratiquer la diplomatie privée, ne serait finalement qu'un accident.
En 2010-2011, Martin Griffiths a quitté le Centre pour le dialogue humanitaire. Il cherchait un rôle. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé Intermediate, cette petite ONG que je dirige depuis 10 ans. Au début, l'idée était juste de fournir une plateforme à Martin pour qu'il continue son activité. Il avait eu de nombreux succès, notamment en Indonésie, au sud de la Thaïlande et aussi avec l'ETA. J'ai donc mis en place cette ONG pour lui, mais il est tombé malade. Et j'ai dû quitter mon travail de banquier et venir diriger l'ONG moi-même. Ce que j'ai fait avec grand plaisir et je ne l'ai jamais regretté. Martin, de son côté, a fait autre chose depuis. Il est aujourd'hui le négociateur de l'ONU pour le Yémen et il effectue un travail remarquable. L'idée d'Intermediate est directement issue de l'expérience de Martin Griffiths au Centre pour le dialogue humanitaire. Il a eu un succès notable en allant directement parler au chef du GAM. Martin savait juste que ce leader séparatiste vivait à Stockholm et il connaissait son nom. Il a donc pris un annuaire et a appelé tous les abonnés portant ce nom jusqu'à ce que finalement il tombe sur la bonne personne. Et le chef séparatiste lui a dit « Bien sûr, j'adorerais parler avec vous. Depuis 14 ans que mon mouvement se bat, personne n'est jamais venu nous parler. » Martin est donc allé à Stockholm, a vu ce leader, puis, exagérant ses connexions avec l'ONU, a été reçu à Jakarta et a convaincu le gouvernement indonésien d'ouvrir des négociations. Cette première initiative portait sur des discussions entre un mouvement terroriste et un gouvernement, ce que dans le jargon international on appelle Track One. Les pourparlers avec la société civile sont appelés Track Two. Malheureusement, elle n'a pas eu le succès escompté. C'est une organisation finlandaise, CMI, fondée par Martti Ahtisaari, qui a pris le relais. Donc ce qui m'a inspiré pour Intermediate, c'est d'abord et avant tout Martin Griffiths, et ce qu'il a fait à la tête du Centre pour le dialogue humanitaire.
Jonathan Powell va faire de son organisation quelque chose de très différent de ce qui existe alors. Intermediate n'est pas seulement une instance de médiation, mais quelque chose de très hybride, à mi-chemin entre l'ONG et le cabinet de conseil. le diplomate va développer toute une gamme de services qui vont de l'appui diplomatique jusqu'à l'assistance à la négociation.
Plutôt que de toujours essayer d'être un médiateur, je considérais que l'on pouvait également épauler un camp ou l'autre. Ainsi, juste avant de fonder Intermediate en 2011, j'avais rencontré le président colombien Juan Manuel Santos, qui venait d'être élu, voulait se doter d'un directeur de cabinet et m'avait demandé conseil. Mais il voulait aussi me parler de l'Irlande du Nord. Il avait vécu au Royaume-Uni pendant 10 ans, où il était le représentant des producteurs de café, et avait été le témoin d'un attentat de l'IRA à Piccadilly, devant l'In-N-Out Club. Il était donc particulièrement intéressé par le sujet, et nous avons eu une longue conversation sur l'Irlande du Nord. Il m'a ensuite dit « Revenez dans une semaine pour parler de tout cela avec mon conseiller à la sécurité ». Je suis revenu et à ce moment-là, ils m'ont révélé qu'ils disposaient d'un canal secret pour discuter avec les FARC, c'est-à-dire exactement ce dont nous avions disposé pour négocier avec l'IRA. Et ils voulaient absolument utiliser ce canal pour négocier. Il était perçu comme un dur. Il avait été auparavant ministre de la Défense et avait écrasé le FARC. Mais maintenant, il voulait négocier et il avait besoin d'aide. Il m'a donc demandé de mettre en place un petit groupe de conseillers, ce que j'ai fait. Parmi les membres, il y avait Shlomo Ben-Ami, le ministre des Affaires étrangères israélien au moment de Camp David. Joaquin Villalobos, le fondateur de l'armée révolutionnaire du peuple au Salvador. Et Billy Urey, un professeur de Harvard. Tous ensemble, on a identifié les erreurs qui avaient été faites lors des précédentes négociations avec le FARC. Et on a conçu une stratégie de négociation qui consistait notamment à utiliser le canal secret pour faire sortir le FARC de la jungle et les faire venir à La Havane pour négocier. Car les négociations avec les FARC ont beaucoup souffert d'une chose. La rébellion et le gouvernement discutaient de tout, y compris de sujets beaucoup trop vagues. Lors des précédents pourparlers de 1991, pas moins de 100 sujets avaient été évoqués par les deux parties, y compris la fin du capitalisme. Il était donc très peu probable qu'un accord soit jamais trouvé. Nous avons donc longuement et secrètement négocié avec le FARC pour définir un ordre du jour qui ne portait que sur 5 sujets. Le premier, le plus important, c'était la réforme agraire. Tout le reste, l'abandon des armes, les réparations entre les victimes, les liens avec les trafiquants de drogue, n'étaient que des conséquences de cette question agricole. Et c'est cet ordre du jour minimal qui a rendu les négociations possibles. On a conseillé le président Santos sur ces pourparlers pendant 8 ans, et aussi sur un autre dialogue avec la guérilla marxiste de l'ELN qui n'a pas abouti. Nous n'avons jamais rencontré le FARC, jusqu'à la signature de l'accord. Nous ne travaillions que d'un côté. Nous n'étions pas des médiateurs. Ce type de mission a donc constitué une variante. À certains endroits, nous sommes médiateurs. À d'autres, nous conseillons un camp ou l'autre. Mais l'objectif est toujours le même, arriver à un accord de paix, un accord qui durera, et pas simplement quelques jours.
À ce moment de l'entretien, les choses sont devenues extraordinairement confuses. Qu'est-ce qu'Intermediate exactement ? Une entreprise de paix privée ? Un cabinet d'arbitrage ? Un réseau de voltigeurs de la médiation ? Et que fait Powell lui-même ? De la diplomatie ? Du conseil au gouvernement ? Ou les deux ?
Sur le statut exact d'Intermediate, notre site internet est délibérément imprécis. Notre mode d'action, c'est en effet d'opérer en dessous des radars. La raison pour laquelle certaines personnalités d'envergure mondiale peinent à conduire des négociations, c'est qu'elles arrivent à l'aéroport, à un endroit, elles sont identifiées et tout le monde sait immédiatement de quoi il en retourne. Si vous prenez cette organisation l'ancien chef d'État qui s'appelle les Elders, qui est une organisation merveilleuse. Elle ne peut pas conduire des négociations secrètes parce que tout le monde reconnaîtrait les personnalités qui en sont membres. Notre job, c'est donc d'être invisible, parce que c'est seulement à cette condition que les présidents, les premiers ministres et les chefs de guérilla acceptent l'intervention d'émissaires tels que nous. Ils ne peuvent être vus en train d'écouter des étrangers pour régler leurs propres conflits. Et l'une des raisons pour laquelle une organisation comme la nôtre existe, c'est parce que nous ne pouvons être assimilés à un gouvernement étranger. Nous nous sommes enregistrés au Royaume-Uni en tant qu'organisation caritative. En d'autres termes, nous ne pouvons faire de profit. C'est important, nous ne sommes pas là pour faire de l'argent, mais seulement pour aider les autres. Nous sommes financés par des gouvernements, mais nous prenons garde à ce que ceux qui nous financent n'aient pas un intérêt dans les conflits dans lesquels nous nous impliquons. Nous recevons de l'argent de la Suède, de la Norvège, de la Suisse, et en tant qu'organisation caritative, nous déclarons tout ce que nous recevons. Mais nous sommes également une ONG. Nous sommes basés à Londres, mais nous n'avons aucun lien avec le gouvernement britannique, ni avec le gouvernement américain, ni aucun autre. Parfois, des gens me disent « Ce serait tout de même plus simple si vous étiez Suisse ou Norvégien. Tout le monde vous considérerait comme neutre. » En réalité, les gens s'intéressent plus à vous s'ils voient que vous avez accès au pouvoir en place, s'ils savent que vous pouvez parler à des dirigeants haut placés à Washington, à Londres et à Bruxelles, que si vous êtes neutre. Ils veulent que vous soyez impartial, dédié à la recherche de la paix et libre de tout agenda caché. Mais ils n'exigent pas forcément que vous portiez une croix rouge ou un drapeau blanc.
Cependant, force est de constater que la poignée de diplomates privés qui sillonnent les maquis et se partagent ce marché si particulier arbore l'Union Jack. Une majorité d'entre eux est en effet britannique. Qu'est-ce qui, dans la culture politique du royaume, peut autoriser des prestataires privés à s'aventurer sur un domaine aussi régalien que la diplomatie ?
Des organisations comme la mienne existent dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple, il y a une fondation qui s'appelle Berghof. Ils ne font pas exactement la même chose que nous, mais c'est similaire. En Suisse, il y a le Centre humanitaire pour le dialogue. En Italie, il y a San Egidio. En Espagne, il y a l'Institut de Tolède. Donc il existe des organisations. Mais il y a deux choses qu'il faut préciser sur le rôle des Britanniques dans ce secteur, l'une triviale, l'autre sérieuse. Quand je m'implique dans une médiation quelque part dans le monde, cela revient souvent à nettoyer le désordre qu'ont laissé mes ancêtres derrière eux. Si vous allez au Nigeria, une grande part des problèmes découle du fait que nous avons forcé des gens très différents à vivre ensemble dans le même État. Si vous regardez Myanmar, où mon arrière-grand-père a combattu dans la troisième guerre birmane, là encore nous avons forcé des peuples divers à vivre ensemble. Une grande part de ce travail revient à régler des problèmes légués par la période coloniale britannique. Parce que nous avons été des fauteurs de troubles durant notre histoire coloniale. Et maintenant, il faut régler tous les problèmes que nous avons laissés derrière nous. Ça, c'est l'aspect trivial des choses. Mais l'aspect sérieux, c'est que quand j'ai travaillé sur les négociations de rétrocession de Hong Kong à la Chine, en tant que diplomate britannique, j'ai acquis de l'expérience sur l'un des derniers dossiers directement issus de l'époque coloniale. Je ne suis pas sûr que l'on puisse aujourd'hui acquérir ce genre d'expérience ailleurs. Donc clairement, il y a un aspect culturel dans l'implication des Britanniques dans le secteur de la médiation. Et puis bien sûr, il y a l'Irlande du Nord, un conflit très violent qui s'est résolu dans les négociations. Donc les Britanniques savent qu'on peut régler ce genre de conflit par la médiation. Peut-être que ce genre d'expérience est moins prégnant en France. En même temps, si vous regardez la guerre d'Algérie, au début, François Mitterrand, qui était alors ministre de l'Intérieur, a dit que la France ne parlerait jamais avec le FLN. Et à la fin, Charles de Gaulle a initié des pourparlers secrets avec le FLN. Et ce sont ces pourparlers qui ont mené à la paix. Et ce, malgré l'opposition à l'intérieur du pays.
En France, c'est peu de le dire, l'État n'aime pas que des intervenants extérieurs s'immiscent dans les négociations qu'il mène, que celles-ci portent sur des alliances diplomatiques ou des libérations d'otages. La DGSE, les services secrets français, veillent jalousement sur leur monopole dans la diplomatie parallèle.
It is true that in France and actually in most countries
C'est vrai qu'en France, c'est plutôt le gouvernement qui négocie. Mais ce n'est pas le gouvernement qui joue les médiateurs. Dans le cas du FLN, ce sont les Suisses qui ont été les médiateurs. C'était des officiels suisses, mais ils opéraient de manière relativement autonome. C'est un peu ce que nous essayons de faire. Nous ne travaillons pas pour les gouvernements, nous essayons d'aider les gouvernements à arriver à une solution négociée. Donc je ne suis pas sûr que nos traditions nationales soient si différentes. Je pense en revanche que la France a eu moins d'expérience dans la négociation avec des groupes armés. Si vous prenez un groupe comme Action Directe, il a été défait militairement parce qu'il n'avait pas de soutien populaire. Vous n'avez pas vraiment eu à gérer une menace sécessionniste en France. C'est peut-être ça la principale différence avec nous.
L'un des premiers dossiers sur lequel va travailler Powell à travers Intermediate est effectivement une guérilla séparatiste, celle de la RENAMO, au Mozambique, qui avait déjà mobilisé 20 ans plus tôt les négociateurs italiens de Sant'Egidio.
Au Mozambique, il y a eu un très long conflit entre la rébellion de la RENAMO et le parti au pouvoir, le Frelimo. La fin du conflit a été négociée en 1992, mais aucune des deux parties ne s'est tenue à ses engagements, et les hostilités ont repris, et ont atteint un niveau préoccupant il y a 3 ans, lorsqu'Alfonso de la Cama, le leader de la RENAMO, est retourné dans le maquis et a repris le combat. J'ai rencontré le président mozambicain, Philippe Nyusi, et il voulait essayer une nouvelle fois de négocier une paix durable avec la RENAMO. Je l'ai aidé à mettre en place une stratégie de négociation et il a ouvert des pourparlers avec des médiateurs parce que c'est ce que voulait la RENAMO. Et Nyusi a nommé 6 médiateurs différents. Et le problème, c'est que chacun d'entre eux s'est entouré d'assistants, ce qui a fini par donner près de 18 personnes, soit beaucoup trop pour mener une négociation sérieuse. Donc toute l'initiative a rapidement dégénéré en pantalonnade. Avec l'accord du président, j'ai donc tenté de tendre la main à Alfonso de la Cama. J'ai traversé la ligne de front, je l'ai rencontré et au cours de ces conversations, nous sommes parvenus à établir un début de confiance, suffisamment pour que de la Cama accepte de parler directement à Nyusi. Et petit à petit, un cessez-le-feu a été conclu, puis un accord de paix qui a été signé en août dernier. Malheureusement, Alfonso de la Cama était entre-temps mort en 2018 dans le maquis, et c'est son successeur qui a signé l'accord. Donc parfois, vous travaillez avec les deux camps, parfois avec un seul. Mais en tant qu'organisation non gouvernementale, vous pouvez vraiment faciliter les choses.
Toutes ces négociations lointaines peuvent paraître abstraites, mais un incident va les rendre soudain très proches. Nous tentons de convaincre Jonathan Powell de nous raconter une mission particulièrement délicate qu'il a récemment menée, mais il se dérobe expliquant que certaines choses doivent rester secrètes.
We obviously have to be careful about talking about negotiations we're involved in because they are secret.
Au moment même où il prononce ce mot, secrète, un sifflement provoqué par un mécanisme invisible vient parasiter l'enregistrement. Notre réalisateur Rafik Zenin arrête la conversation. Commence à promener son micro dans la pièce pour localiser le problème. Tout le monde pense évidemment à des micros, et Jonathan Powell rit jaune en nous confiant que des diplomates nord-coréens étaient à notre place il y a seulement quelques semaines.
Au bout de quelques minutes, le sifflement disparaît comme il était apparu. Il reviendra quand Jonathan Powell prononcera un autre mot chargé de sens, Al-Qaïda. Pierre Gatineau, Philippe Vasset, Les Nouveaux Corsaires, France Culture.
Ancien diplomate devenu mercenaire de la paix, le Britannique Jonathan Powell s'est nourri de son passage au Foreign Office, puis de son rôle de négociateur en Irlande du Nord quand il était directeur de cabinet de Tony Blair, pour fonder un cabinet de diplomatie privée, Intermediate, qui intervient partout dans le monde. Parmi les missions délicates qu'a menées le cabinet figurent les négociations entre le gouvernement militaire birman et la vingtaine de groupes rebelles actifs dans le pays.
Nous avons eu beaucoup moins de succès au Myanmar, et ce, bien que nous ayons travaillé 8 ans sur ce dossier. David Cameron, quand il était Premier ministre, a été au Myanmar très tôt, peu après qu'Aung San Suu Kyi ait été libérée de prison, et alors qu'elle était encore leader de l'opposition. Il a rencontré le gouvernement militaire qui était alors en place et leur a dit qu'il serait ravi de partager avec eux les leçons de l'Irlande du Nord. Après cette visite, j'ai échangé avec ses services et nous avons convenu que j'irai au Myanmar avec un vétéran de l'IRA, Jerry Kelly, qui a posé une bombe au palais de justice de Londres et s'est échappé à 2 reprises des prisons britanniques. Et également un député unioniste qui avait été membre de l'UDR, la branche militaire du mouvement protestant. Et nous voilà donc partis au Myanmar, où nous avons rencontré tous les groupes combattants, soit près d'une vingtaine de milices actives depuis les années 60. Et nous avons également rencontré l'armée, le gouvernement, et nous avons partagé avec eux notre expérience. C'était un peu comme un atelier pratique. Regardez, vous pouvez avoir été ennemi pendant des décennies et finalement négocier une paix durable. Ensuite, nous avons tenté d'aider le gouvernement militaires dans leur premier pour parler avec les groupes armés, pour surmonter les blocages et les aider à établir le contact. Ensuite, lorsque Aung San Suu Kyi est devenue leader de Myanmar, elle nous a demandé de l'aider à mener le processus de paix, avec elle et avec les groupes armés, pour parvenir à un accord sur une fédération, un Myanmar où il y aurait à la fois de la place pour les groupes ethniques et pour la majorité birmane. Ça a été un processus avec beaucoup de hauts et de bas, mais nous approchons maintenant, je pense, d'un accord cadre qui prévoit de nouvelles élections à la fin de cette année. Donc nous travaillons dans toutes ces zones très diverses et nous accomplissons des choses que les gouvernements ne peuvent pas faire. Et nous travaillons à la fois avec les pouvoirs en place et avec les groupes armés, en essayant d'améliorer les choses.
Il y a 50 ans, c'était les diplomates anglais qui négociaient avec les rebelles birmans. Et un siècle plus tôt, c'était les officiers de sa très gracieuse majesté. Comment les privés se sont-ils invités dans l'histoire millénaire de la diplomatie ?
There's a history to mediation. During the Cold War,
il y a une histoire de la médiation. Pendant la guerre froide, il était extrêmement difficile de trouver une solution négociée au conflit, car c'était toujours un jeu à somme nulle. Soit les Américains gagnaient, soit c'était les Russes. L'ONU était incapable de remplir son rôle de médiateur, et il n'y a pratiquement aucun exemple de l'ONU négociant avec succès la fin d'un conflit durant toutes ces années. La fin de la guerre froide a fourni à l'ONU une véritable opportunité, et l'ONU s'en est saisie au Salvador, en Namibie et dans quelques autres pays. À ce moment-là, l'ONU est devenue le médiateur des conflits intérieurs et est parvenue à en résoudre. Mais tout cela n'a duré que très peu de temps. Rapidement, les gouvernements sont devenus ouvertement soupçonneux de l'ONU. Se sont dit que l'organisation n'avait pas à intervenir dans les conflits intérieurs. C'était notamment le cas au Royaume-Uni. Nous avons toujours refusé que l'ONU s'implique en Irlande du Nord. Nous ne voulions pas qu'une organisation internationale s'implique dans ce que nous considérions comme un problème intérieur. Ce qu'ont fait les pays à ce moment-là, c'est utiliser comme médiateurs des petits pays, parce qu'ils étaient jugés non menaçants. Ainsi, par exemple, au Sri Lanka, c'est la Norvège qui a été choisie par le gouvernement et les Tigres tamouls comme médiateurs. Ils n'ont jamais voulu du Royaume-Uni, qui a une longue histoire dans la région. Ils préféraient un petit pays, car ils avaient peur qu'un grand pays devienne autoritaire et leur dise quoi faire. Ils craignaient un médiateur disposant de trop de pouvoir. Et la Norvège, de son côté, avait développé un grand intérêt pour la question du Sri Lanka. C'est donc la Norvège qui a joué le rôle de médiateur. Mais au fur et à mesure, même ces petits pays sont devenus menaçants pour les pays en proie à des conflits internes. Et ils se sont mis à mandater des individus, des ONG. Ça a été le cas au Mozambique en 1992. En Indonésie, ils ont fait appel à l'ancien président finlandais Martti Ahtisaari. Au fil des années, il y a donc eu une évolution importante. On est passé de l'ONU aux petits pays et finalement aux personnalités et aux ONG. Et je pense que cette tendance vers plus de légèreté va se poursuivre.
Prêchant pour sa chapelle et le secteur qu'il contribue à développer, Powell parle rarement des potentielles dérives que peut occasionner la diplomatie privée. En revanche, il est intarissable sur ses avantages.
Ce qui se développe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la médiation virtuelle. C'est-à-dire que chaque parti est épaulé par des conseillers qui se parlent entre eux et qui peuvent arriver de cette manière à un compromis. En Colombie, le sujet le plus épineux était celui des rétributions judiciaires. Comment faire en sorte que les victimes du conflit obtiennent réparation? Et ce, sans dire aux guerrieros qu'ils allaient faire 30 ans de prison. Car bien sûr, si vous proposez à des guerrieros de négocier un accord de paix et que dans le même temps, vous leur dites qu'ils vont faire 30 ans de prison pour leur crime, ils refusent de parler avec vous. Il fallait donc contourner le problème, et on ne pouvait pas le faire à la table des négociations, car ça aurait été trop dur. On a donc mandaté 6 avocats, 3 pour chaque camp. Ils se sont retirés pendant 2 semaines et sont arrivés à une proposition de 70 pages qui réglait la question des réparations judiciaires. Ça n'était pas parfait. Leur proposition a ensuite été soumise aux 2 parties et négociée plus avant. Mais c'est un bon exemple de négociation virtuelle, où les conseillers de chaque camp se parlent. Et c'est pour cela que je pense que le rôle des médiateurs individuels et des ONG va aller croissant, car les gouvernements ne peuvent faire ce genre de choses. Et ils sont de plus en plus réticents à ce qu'un troisième gouvernement s'implique dans leurs affaires. Ils ne veulent pas de l'ONU non plus. Et pourtant, il faut bien que quelqu'un s'implique. Il y aura donc de plus en plus de médiateurs individuels, pas seulement des gens comme moi, mais tous les gens qui ont des dispositions pour mener à bien ce genre de mission. On parle même maintenant de médiateurs de l'intérieur, à savoir des personnalités issues des rangs même des 2 parties en présence.
Powell considère que le recours aux diplomates privés est d'autant plus nécessaire que les États se défient de plus en plus des médiations officielles.
But I also think that governments are getting more and more nervous about mediators altogether.
Mais je pense aussi que les pays en général sont de plus en plus méfiants envers les médiateurs. Prenez l'Afrique du Sud. Ils n'ont jamais voulu de médiateur pour négocier la fin de l'apartheid. Ils l'ont fait eux-mêmes. Même chose en Colombie. La Norvège et Cuba n'ont participé au pourparlers qu'en tant que témoins. Ils ont signé quand ils étaient d'accord, mais ils n'étaient pas médiateurs. Ils n'étaient même pas facilitateurs. Pareil au Myanmar, le gouvernement et l'armée n'ont pas voulu de médiateur. Partout dans le monde, on constate que les gouvernements acceptent de plus en plus difficilement les médiateurs. L'ONU garde un rôle dans les zones où il n'y a plus d'État, en Libye, en Somalie, parce qu'il n'y a personne d'autre qui puisse conduire des négociations. Mais lorsqu'il y a encore un gouvernement en place, c'est plus difficile. Et c'est un problème, car si les gouvernements n'acceptent plus les médiateurs, comment organiser des rencontres? Comment construire un compromis? En Irlande du Nord, lorsque le député américain George Mitchell s'est retiré, nous n'avions plus de médiateurs, et nous avons dû avoir recours aux Angel Papers, ces propositions de compromis sans auteur, que l'on appelle ainsi car c'est comme si elles tombaient du ciel. Si ces rapports avaient été signés par le gouvernement britannique, Sinn Féin l'aurait rejeté par principe. Et inversement, il y a donc un véritable besoin de médiation.
Le secteur, à en croire Powell, est en plein boom. Mais la diplomatie privée souffre en revanche d'un vrai problème de ressources humaines. ne devient pas négociateur de conflits qui veut. L'activité nécessite non seulement une longue expérience, mais aussi et peut-être surtout un carnet d'adresses. Il faut pouvoir être reçu au plus haut niveau.
Certainly, sadly, there is a growing demand. There is an increasing number of internal conflicts. Luckily, we have fewer and fewer wars between countries, but we have more and more internal conflicts of this sort.
Il y a une demande croissante pour les services de médiation. Il y a de plus en plus de conflits intérieurs. Fort heureusement, il y a de moins en moins de conflits entre les États, mais il y en a de plus en plus à l'intérieur des États. Je crains que ça ne continue avec le développement de groupes comme Daesh, Al-Qaïda, etc. Donc oui, on va voir une professionnalisation croissante des médiateurs. Mais ça reste une activité difficile, il y a peu de gens qui ont le savoir-faire nécessaire pour l'exercer. Prenez quelqu'un comme Lakhdar Brahimi, qui est un diplomate algérien remarquable, qui a notamment travaillé sur la médiation en Afghanistan. On ne trouve pas ce genre de talent très souvent. Quand vous faites de l'arbitrage commercial, vous avez juste besoin d'être un avocat et de connaître la loi. Mais pour être un médiateur dans un processus politique, il faut beaucoup plus. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas forcément. Souvent, vous lisez ou vous entendez des gens dire « Ah, si seulement on pouvait se débarrasser de la politique, on pourrait régler ce problème. » C'est à contresens complet. Les conflits sont des problèmes politiques et il faut donc y penser de manière politique. Si vous voulez qu'un président ou un chef combattant mette fin à un conflit, il faut lui fournir les arguments qui convaincront ceux qui le soutiennent de cesser les hostilités. Et cela requiert un savoir-faire politique. Parfois, cela nécessite la mobilisation d'experts en communication. La médiation nécessite à la fois un savoir-faire politique, des talents diplomatiques et bien sûr des talents de psychologue. Trois choses qu'on trouve rarement chez la même personne. Et il n'y a pas vraiment de filière pour la médiation. Donc oui, je m'attends à ce qu'il y ait de plus en plus de médiateurs. Mais ils sont néanmoins peu communs. Il faut d'abord disposer d'un accès aux décideurs pour être en mesure de les persuader de parler à leurs ennemis. Ensuite, il faut leur montrer que vous pouvez leur être utile, que vous avez acquis de l'expérience dans une autre négociation qui a abouti, que vous avez appris des leçons dans une autre négociation. Tous les conflits sont très différents. Irlande du Nord, Mozambique, Colombie, Espagne, tous sont très différents et les accords conclus sont très différents. Mais ils sont riches d'enseignement. Donc il faut de l'expérience, un accès aux décideurs, et le plus difficile de tout, avoir peu d'ego. De nombreux hommes politiques en ont beaucoup, et c'est un problème. Si vous vous lancez dans une négociation, soit comme médiateur, soit comme facilitateur, et que vous aimez être au centre de l'action, ça va être difficile. Il y a des exceptions. Richard Holbrooke, le diplomate américain, que personne ne qualifiera de modeste, a malgré tout réussi à négocier l'accord de Dayton sur la Bosnie. Et il y est arrivé en menaçant les parties, en poussant, en tirant, etc. Le problème de ce genre de tactique, c'est que ça ne marche qu'une fois. Si vous vous y reprenez à plusieurs reprises, les parties vous voient venir et comprennent votre manière d'agir. Prenez à l'inverse Kofi Annan, qui a mené une négociation avec succès au Kenya, ou bien Lakhdar Brahimi en Afghanistan. Ce sont des gens qui ont peu d'ego et sont concentrés non sur eux-mêmes, mais sur l'avancée des pourparlers. Car il ne faut pas non plus être trop laxiste et se contenter du plus petit dénominateur commun. Ça ne marche pas non plus. Il faut avoir une vision et savoir comment on peut y arriver, avoir de l'imagination et s'investir dans l'avancée des pourparlers sans que son ego ne s'en mêle. Il y a déjà suffisamment d'ego autour de la table, ce n'est pas nécessaire d'en amener un nouveau.
S'ils ont sans doute moins d'ego que leurs homologues officiels, les diplomates privés sont également moins tenus par des questions idéologiques. Ils peuvent afficher des positions bien plus radicales que n'oserait le faire un gouvernement démocratique.
I still would negotiate with ISIS if I could and if I could find someone who would be the other end of the channel.
Je négocierais avec Daesh si je pouvais et si je trouvais quelqu'un chez eux pour négocier. Il y a eu quatre différentes sortes de terroristes dans notre histoire récente. Les anarchistes et les nihilistes au début du siècle dernier, puis les mouvements de libération durant la décolonisation. les mouvements gauchistes dans les années 70 et 80 et maintenant les groupes religieux. Et bien sûr, les terroristes religieux sont d'essence différente. Comme le disait un ministre israélien, quand Dieu entre dans l'équation, il n'est plus question de compromis, on ne peut plus parler. Mais ce n'est pas mon expérience. Si vous prenez le GAM ou bien le Front Moro Islamique de Libération aux Philippines, ce sont des groupes islamiques combattants déclarés, et pourtant tous les deux ont négocié la paix avec des gouvernements. Il n'est donc pas certain que quand Dieu fait partie du problème, on ne puisse pas négocier un accord. La véritable question, c'est est-ce que ces groupes disposent d'une base politique ou pas? Des groupes comme Bader Meinhof, la fraction armée rouge ou les brigades rouges, sans soutien politique, ne sont que des problèmes policiers. Un groupe comme l'IRA, en revanche, disposait de soutien politique en Irlande du Nord. Même au plus fort des troubles, il rassemblait un tiers du vote catholique. On ne pouvait donc pas régler le problème militairement, il fallait une solution politique. Et c'était le cas pour les FARC, c'était le cas ailleurs. La question est-ce qu'un groupe comme Daesh dispose du soutien politique d'une population? Si l'on considère que 1500 combattants de Daesh ont été capables de prendre la ville de Mossoul, où vivent près d'un million de personnes, c'est bien que certaines personnes à Mossoul préféraient Daesh au gouvernement irakien de Nour el-Maliki, très mal disposé envers la population sunnite. Et ces doléances de la population sunnites en Mésopotamie, tout comme celles de la population alaouite en Syrie, doivent être prises en compte si on veut une issue politique à la crise. Alors oui, on n'a pas forcément envie de parler à ces groupes. Quand j'ai quitté le gouvernement, j'ai dit que, si je me fiais à mon expérience avec l'IRA, je pense qu'il serait raisonnable de parler avec le Hamas, avec les talibans et avec Al-Qaïda. À l'époque, tout le monde m'était tombé dessus en disant que je racontais n'importe quoi, qu'il était acceptable de parler à l'IRA et à l'OLP, mais qu'il ne fallait pas parler à ces nouveaux groupes. Depuis, les États-Unis ont ouvert des négociations avec les talibans, les Israéliens ont ouvert des pourparlers avec le Hamas, et chez nous, une directrice du MI5, Eliza Manning-Gambuller, a dit qu'il serait censé de négocier avec Al-Qaïda. Donc les opinions changent. Bien sûr, la faisabilité de pourparler avec Al-Qaïda n'est pas évidente, tout comme le moment auquel il conviendrait de négocier avec Daesh. Mais ce sont des questions techniques qui n'ont rien à voir avec la question de savoir s'il convient de négocier avec ces groupes. C'est un réel problème de trouver des financements pour négocier avec des groupes islamiques radicaux. Aucun gouvernement n'est prêt à assumer ce genre de financement et pourtant, tous souffrent des conséquences de notre incapacité à parler à ces groupes. All of our governments are suffering from that you're not prepared to talk to.
Le pragmatisme de Jonathan Powell va jusqu'à un certain relativisme en matière de droits de l'homme, même s'il s'en défend.
On nous demande souvent d'avoir un engagement très ferme en faveur des droits de l'homme, ou bien de l'égalité homme-femme. Mes opinions sur ces deux questions sont très claires. Et quand je négocie, je n'essaie pas d'imposer ces opinions à ceux avec lesquels je négocie. Je me concentre sur les négociations elles-mêmes et la fin du conflit. Je ne pense pas que la situation sera définitivement réglée tant qu'ils n'accepteront pas la démocratie, les droits de l'homme et l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais je ne leur impose pas. Je m'occupe d'abord de les aider à résoudre pacifiquement leurs conflits. Et ce fonctionnement nous coupe de certaines sources de financement. Nous avons demandé de l'argent à certaines fondations et elles nous ont demandé si nous allions promouvoir les droits de l'homme dans notre activité. Nous avons dit non, ce n'est pas notre travail et nous n'avons pas obtenu ces financements.
Jonathan Powell ne s'arrête pas à la seule critique des droits de l'homme. Pour lui, c'est la notion même de valeur universelle qui pose problème. Quand on cherche à négocier la fin d'un conflit, s'occuper de justice peut s'avérer contre-productif.
La Cour pénale internationale est une très bonne chose, mais elle complique les négociations. Prenez l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda, un groupe terrible, qui a commis des crimes atroces. Pendant que les négociateurs tentaient de les convaincre de quitter le maquis et de rendre leurs armes, la CPI a dit très clairement qu'ils seraient poursuivis pour leurs crimes. Et évidemment, ils ont continué la guerre. C'est donc toujours un équilibre précaire. Pareil pour les leaders qui auraient pu être persuadés de quitter le pays contre une amnistie, comme Kadhafi, et auxquels on ne peut plus faire ce genre d'offre à cause de la CPI.
Mais plus que le relativisme idéologique, c'est d'abord le risque de conflit d'intérêts qui constitue le principal danger pour les diplomates privés. Sans référent étatique, comment savoir pour qui travaillent ces prestataires ? Jonathan Powell affiche des principes apparemment très clairs.
Nous ne sommes jamais missionnés par le Foreign Office britannique. Parfois, nous leur demandons de l'argent, comme nous le faisons avec d'autres gouvernements. Ils financent certains de nos projets, mais ils ne sont en aucun cas notre principal contributeur. Nous sommes financés par 7 gouvernements en tout. Donc nous n'acceptons aucune mission de la part des gouvernements qui nous financent. Nous sommes missionnés par des présidents, des premiers ministres et des chefs de l'opposition. Mais ceux qui nous missionnent ne sont pas ceux qui nous payent, faute de quoi nous leur serions inféodés et nous ne serions plus impartiaux.
À rebours de sa déclaration de principe, nous lui rappelons qu'il a mené via son cabinet des missions britanniques officielles. En 2014, nous avions remarqué que son poste d'envoyé spécial du gouvernement britannique en Libye camouflait en réalité un contrat du Foreign Office à son cabinet intermediate. Comment, dans ces conditions, distinguer le haut fonctionnaire du consultant ?
I was appointed by David Cameron as his special envoy for Libya, and we did it actually as intermediate. So I didn't just do it as an individual. We, as an organization, took on that role.
David Cameron m'a nommé envoyé spécial pour la Libye, et c'est mon organisation Intermediate qui a assuré cette fonction. Et la raison pour laquelle c'était compatible avec notre activité, c'est que notre rôle, c'était d'aider l'ONU à ouvrir des négociations entre les deux camps dans le pays. En tant qu'ONG, j'ai donc pu parler à des gens qui ne m'auraient jamais parlé si j'avais été un officiel. J'ai parlé à des islamistes très radicaux, et à l'autre bout du spectre, j'ai parlé à des kadhafistes jusqu'aux boutistes. L'ambassadeur britannique n'aurait pas pu faire cela. Nous étions donc financés par le gouvernement britannique, mais nous gérions ce dossier comme un projet interne. Disposer du titre d'envoyé spécial facilitait les prises de contact. Malheureusement, ça n'a pas marché, et j'espère que les négociations qui sont actuellement menées auront plus de succès. J'ai cependant appris quelque chose en Libye. C'est qu'une solution négociée a plus de chances d'émerger lorsque les deux parties sont dans une impasse qui les pénalise autant l'une que l'autre. Au début, j'étais persuadé que les deux camps allaient négocier car ils étaient dans une impasse. Haftar ne pouvait gagner et le gouvernement central non plus. Mais cette impasse ne les pénalisait en aucun cas. Les deux parties prospéraient, prenaient des territoires, etc. Et on est toujours dans cette phase. On n'est pas encore arrivé à un blocage insupportable pour les deux camps qui peut les amener à la table des négociations. Il faut être particulièrement vigilant sur les conflits d'intérêts dans cette activité. Il ne faut surtout pas donner l'impression que vous négociez pour autre chose que la paix. Si vous avez un contrat avec l'une des parties en présence, vous n'êtes pas de bonne foi. On fait extrêmement attention à tout cela. Et je n'ai pas d'autre activité. On déclare tout l'argent qu'on le reçoit. On prend de l'argent des gouvernements qui n'ont aucun intérêt direct dans les pourparlers que l'on mène. Mais il faut toujours se poser la question. Est-ce que les gens qui vous financent ont un intérêt dans le dossier et est-ce qu'ils essayent de vous pousser dans une direction plutôt que dans une autre ? Mais le plus important, c'est de ne pas avoir d'intérêt caché.
Plusieurs scandales de diplomates trop vite reconvertis dans le privé ont récemment éveillé ces soupçons de conflit d'intérêts. En 2015, alors qu'il était encore l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, L'Espagnol Bernardino León avait négocié un job en or à la tête de l'Académie diplomatique des Émirats Arabes Unis. Problème, les Émirats finançaient l'un des deux belligérants en Libye. Le Libanais Hassan Salamé, qui a pris la suite de León, n'a jamais vraiment réussi à restaurer la crédibilité de l'organisation internationale en Libye et a fini par démissionner fin mars.
Salamé lui-même a prêté le flanc aux critiques en s'appuyant, en Libye, sur l'organisation suisse Centre pour le dialogue humanitaire, à laquelle il avait confié un contrat d'assistance. Or, cette organisation, mise sur pied par le Britannique Martin Griffiths, ancien collaborateur de Jonathan Powell, maintient le flou sur ses sources de financement, notamment étatiques. L'organisation déclare recevoir des fonds d'une vingtaine de gouvernements, et il est difficile de ne pas imaginer que certains de ses contributeurs n'aient pas un intérêt direct dans le conflit libyen. Le seul soutien financier publiquement identifié par le centre est le milliardaire australien Andrew Forrest, un philanthrope très engagé contre l'esclavage moderne et pour le développement de l'Afrique, mais qui est également à la tête d'un empire minier opérant dans les zones où intervient également le Centre pour le dialogue humanitaire.
Même Martin Griffiths, devenu l'envoyé spécial de l'ONU au Yémen, est parfois critiqué pour la façon dont il mêle mission publique et intérêt privé. Parallèlement à ses fonctions à l'ONU, Griffiths dispose en Suisse d'un petit cabinet de conseil baptisé Mediation Group International et qui compte, parmi ses actionnaires, un dirigeant du groupe d'ingénierie pétrolière ICAR. Or, cette société est très active en Arabie Saoudite, précisément l'une des parties du conflit yéménite que doit régler Griffiths.
À plusieurs reprises durant l'entretien, nous avons suggéré à Jonathan Powell que la diplomatie privée était, finalement, une pratique assez proche de l'arbitrage, ces tribunaux de commerce internationaux qui jugent les différends entre multinationales et États. Opérant au-dessus des juridictions nationales, les arbitrages sont intégralement privés, juges et avocats étant financés par les parties qui s'opposent. Et comme la diplomatie privée, ils sont également strictement confidentiels.
Bien sûr, il y a des similitudes avec le règlement de conflits commerciaux. Dans le privé, on fait de l'arbitrage, on négocie un accord, etc. Mais on peut le faire parce que personne n'est mort. Si vous avez une affaire criminelle, vous ne pouvez pas la régler avec des arbitres privés. Or, tous ces conflits sont au fond des affaires criminelles. Il y a une légère différence entre l'arbitrage commercial et la médiation. Les entreprises qui ont recours à l'arbitrage savent que la décision des juges sera définitive. Ça ne peut pas être le cas en politique. Mais il existe en revanche des processus de médiation dans les affaires commerciales, tout comme dans les affaires de divorce. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'application de ces techniques dans le domaine politique. Vous savez, c'est toujours pareil, les choses mettent du temps à passer du domaine commercial au politique.
Pressé sur ces questions, Jonathan Powell finit par énoncer une profession de foi qui pourrait sans doute être contresignée par tous les corsaires que nous allons rencontrer dans cette série.
Moi, je fais partie du New Labour. Autrement dit, je suis pragmatique. Le proverbe chinois dit « Peu importe que le chat soit blanc ou noir, ce qui compte, c'est qu'il attrape les souris. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait le moins de morts possible. C'est pour cela que je cherche des résolutions pacifiques. Je mets en regard les victimes du passé avec les victimes de l'avenir. C'est ça que j'essaye d'accomplir, et pas un projet idéologique. »
C'était Jonathan Powell, le mercenaire de la paix, prise de son Fabien Gosset, doublage Nicolas Berger, réalisation Rafik Zenim. Les nouveaux corsaires par Philippe Vasset et Pierre Gatineau, une série que vous pouvez réécouter et même podcaster sur le site de France Culture.